Radio Kapi. Oh, Kapi.
C'est ça, le journal Jocelyne Moussao.
Cinq personnes tuées hier à Balabala, un village du territoire de Djougou en Ituri. C'était lors d'un accrochage entre une faction de la Codeco dénommée Bon Temple des Dieux et les éléments du groupe d'autodéfense Zaïre. La situation crée un déplacement massif de la population. À deux mois de la fin de l'année scolaire, une école de Bukavu a été déguerpie de ses locaux après une décision des justices. Les élèves de l'Institut Matimani n'étudient pas. Les parents se disent fortement préoccupés. Notre invité, c'est Adolphe Mozito, Premier ministre honoraire et président du parti politique Nouvel Élan, membre de la plateforme Lamouka. Il appelle à la mise en place d'une politique structurelle intégrant la construction des infrastructures de base, notamment les routes, pour booster la production agricole et relancer l'économie du pays. Bonjour à tous. En Ituri, cinq personnes, toutes d'une même famille, ont été tuées hier dimanche par les assaillants de la Codeco à Balabala, un village du territoire de Djougou, limitrophe du territoire de Mambasa, selon la société civile locale. C'est le bilan d'un accrochage hier dimanche entre une faction de la Codeco dénommée Bon Temple des Dieux et les éléments du groupe d'autodéfense Zaïre. Cette situation a créé un déplacement massif de la population dans la région. Ezekiel Mouzalia nous en parle.
Dimanche, dans la mi-journée, des affrontements ont opposé des assaillants de la Codeco Bon Temple des Dieux à des éléments du groupe d'autodéfense Zaïre dans la localité de Balabala. Selon la société civile locale, la milice Zaïre a pris en chasse des assaillants de la Codeco qui venaient de faire incursion dans cette localité minière. Il s'en est suivi un accrochage entre ces deux groupes armés. Les affrontements ont fait 5 morts, dont 3 femmes tuées chez elles par balles perdues et 2 autres tuées à la machette par la Codeco. Dans leur fuite, ces mêmes miliciens ont pris en otage 12 personnes dont 4 enfants qu'ils ont amenés en brousse vers Andissa. Cette situation a poussé de nombreuses familles à passer la nuit dans la brousse et d'autres à se réfugier à Mungwalu et Mambasa, lieux jugés plus sûrs. La société civile locale déplore l'absence des militaires dans cette région pour mettre fin aux bavures de ces hors-la-loi. Le porte-parole de l'armée en Ituri rassure que des dispositions sont prises pour renforcer l'effectif des militaires dans cette zone. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
85 morts, plus de 100 disparus, une dizaine de motos et des véhicules incendiés en l'espace de 10 jours. Tel est le bilan des diverses attaques des groupes armés dans les chefferies de Walese, Vankoutou et Basili au sud du territoire d'Irumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Ces chiffres sont dans un rapport sécuritaire publié le week-end dernier par l'Organisation de défense des droits humains, Convention pour le respect des droits humains, CRDH. Cette structure pointe du doigt des présumés ADF très actifs dans la région. Martial Kizabiamungu nous fait le condensé de ce rapport.
Dans ces documents, l'Organisation de défense des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits humains, CRDH, revient sur la récente attaque des ADF le samedi dernier au village Otmaber, précisément à Apamayaya, où 4 civils ont été tués et l'air bien emporté. Cette structure parle d'une montée sensible ces derniers jours de l'activisme des ADF sur l'axe Komanda Mambasa et Komanda Luna et caractérisée par des tueries, des civils et incendies des maisons et engins roulants. En espace de 10 jours, la CRDH dit avoir comptabilisé au moins 85 personnes tuées et environ 100 autres portées disparues, 20 motos brûlées et 2 camions incendiés par ces rebelles sur la RN4. Pour cette organisation, la crainte est de voir ces ADF progresser vers Kisangani en passant par la forêt de Mambasa s'ils ne sont pas arrêtés par les forces loyalistes. Suite à ces tableaux sécuritaires sombres, la CRDH demande la démission du ministre de la Défense et ancien qui, selon elle, a montré ses limites dans la gestion sécuritaire de cette région meurtrie depuis plusieurs mois. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la société civile du secteur de Bapéré dans le territoire de Lubero alerte sur la présence depuis une semaine des miliciens Maïmaï de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC, dans plusieurs entités du groupement Bakakombe, en majorité des sites miniers. La société civile souligne que cette situation crée la psychose au sein des populations soumises à des travaux forcés et à des extorsions de leurs biens. Cette structure citoyenne dit craindre également des probables affrontements entre les groupes armés qui entourent ces sites et appelle à l'implication des autorités. Grâce à Mzati pour les détails.
Des sources de la société civile rapportent que depuis la semaine dernière, des miliciens Maïmaï de l'UPLC affluent dans le secteur de Bapéri en provenance de Kalunguta, un territoire voisin de Beni. Ils se seraient installés notamment dans les villages Bilulu, Makumbu, Lubumbashi, Kasopo et Kambau en groupement Papakombe. Là, ils obligent les habitants à construire leurs abris, affirme notre source. La société civile ajoute que ces miliciens collectent aussi des vivres auprès des habitants et ceux qui ne s'exécutent pas sont sommés de donner des chèvres et une importante somme d'argent en guise d'amende. Dans le groupement voisin de Bapaitumba, un autre groupe Maïmaï occuperait aussi depuis quelques temps les sites miniers de Kamituga, selon les acteurs locaux de la société civile. Ces derniers disent craindre des accrochages entre ces milices, ce qui pourrait encore accentuer la souffrance des populations. Contacté à ce sujet, le chef du secteur de Bapere qui confirme les faits s'est dit préoccupé. Maneno Kambakamba Sauti dit avoir pris langue avec l'administrateur du territoire à ce sujet et que des dispositions sont en train d'être prises pour régler la question. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Au sud Kivu, à Bukavu, je l'ai dit dans les titres, l'Institut Matimani, une école primaire et secondaire, a été déguerpie de ses locaux après une décision de justice. Conséquence, les élèves de cette école sont à la maison et privés d'enseignement. Les parents se disent fortement préoccupés par cette situation, surtout qu'il ne reste que 3 mois avant la fin de l'année scolaire en cours. Le point avec Cynthia Bachizi.
Selon la SONEPA, l'Association nationale des écoles privées agréées, cette école a été scellée à cause d'un litige porté devant la justice et qui dure depuis des années. Les élèves avaient barricadé la route pour protester contre ce déguerpissement. Aujourd'hui, des solutions palliatives sont à l'étude. C'est ce que rassure Takwinja Fanuel, coordinateur au sud Kivu de la SONEPA.
Parce que nous ne pouvons pas entrer dans les problèmes des contentieux. Nous avons trouvé une solution, laquelle une école voisine de la SONEPA, qui s'appelle Complexe Scolaire. Les lutteurs devraient récupérer ses élèves par moment pour que les élèves terminent l'année scolaire et que l'année prochaine, les promoteurs de cette école puissent voir comment ils peuvent prendre le programme par rapport au début de l'année prochaine. Les parents doivent s'apaiser pour que, à partir de demain, le 19, les enfants viennent dans l'école militaire qui est voisine.
Notez que le directeur de la province éducationnelle Sud-Kivu 1, le provède Simon Zono, nous a confié qu'il suivait également cette affaire. Faire de près. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les accidents de circulation ont coûté la vie à 13 personnes, dont des femmes et un enfant, ainsi qu'une dizaine de blessés durant la semaine dernière dans le territoire de Masisi. C'est notamment sur l'axe Sake-Karuba et au niveau de Kasengesi entre Mubambiro et Mugunga. Dans un communiqué de presse publié hier dimanche, la société civile de Masisi qui dresse ce bilan demande à la population de ne pas voyager dans un véhicule transportant des marchandises. À la police des circulations routières, elle recommande de bien mener sa mission. Plusieurs sources pointent du doigt le non-respect du code de la route comme principale cause des accidents. Suivant à ces sujets, le président de la société civile de Masisi, Télésphore, au micro de Bernardine Diambou.
Nous ne pouvons passer sans présenter nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées et à toutes les autres victimes qui encore copient dans les hôpitaux. Nous demandons à toute la population de faire le distinguo entre le véhicule de transport des personnes et ceux des transports de biens afin de limiter les dégâts humains. À tous les transporteurs de bien vouloir respecter les normes de conduite, c'est-à-dire le code de la route, et aux autorités étatiques compétentes de bien vouloir instruire la PCR afin que toutes les actions de la PCR restent objectives dans le cadre de la promotion et la consolidation de la protection des personnes et de leurs biens, et au gouvernement provincial d'apporter une assistance d'urgence en faveur des sinistrés de tous ces accidents de circulation.
Au sud Kivu, deux morts et plusieurs blessés. Bilan provisoire d'un accident de circulation survenu hier dimanche dans la plaine de la Ruzizi sur la route nationale numéro 5. Selon des sources sur place, l'accident s'est produit au niveau de la rivière Kavuguvugu dans la plaine de la Ruzizi, territoire d'Uvira. C'est entre les localités Kagurube et Mikamba dans le groupement de Runingu, chefferie et Bafuliru. Nos sources indiquent que deux camions, l'un en provenance de Missisi en territoire de Fizi et l'autre en provenance de Bukavu sont entrés en collision sur le pont. Le vice-président du conseil local des jeunes de la chefferie des Bafuliru ajoute que l'imprudence des deux chauffeurs qui s'est précipité sur le pont pour passer serré la cause de cet accident. Le corps de l'un des chauffeurs serait resté coincé sous les décombres en attendant d'être évacué. Les blessés ont été conduits dans des structures sanitaires de la place. Retournons au Nord Kivu. Évaluer les opportunités et les défis dans la mise en œuvre des accords d'adhésion de la RDC à la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, tel est l'objectif de la tournée depuis hier dimanche du ministre congolais du commerce extérieur dans les provinces de l'Est du pays. Après un très bref séjour à Goma, le ministre Jean-Lucien Boussa poursuit cette mission à Bukavu. Bernard Danyangi nous fait le point.
Cette mission ministérielle intervient une dizaine de jours après la confirmation, le 29 mars dernier, de l'adhésion de la RDC au sein de l'EAC, Communauté d'Afrique de l'Est. Monsieur Jean-Lucien Boussa dit faire une première évaluation des défis et des opportunités que présente le pays dans la mise en œuvre de ses accords régionaux. Selon lui, l'adhésion de la RDC au sein de l'EAC met le pays dans une situation très compétitive pour trouver sa place dans cette grande zone de libre-échange continental, ZELEC en sigle, qui regroupe plusieurs sous-régions du continent. Jean-Lucien Boussa.
Comme vous savez, nous sommes aussi, avec tous nos pays voisins, membres de la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, cette perspective nous amène à pouvoir nous rendre compte au niveau des frontières quels sont les défis à relever, les opportunités que nous devons mettre en évidence pour que notre pays bénéficie du commerce entre nous et les autres pays voisins, et en particulier le Rwanda, prendre aussi des renseignements qui nous permettent de régler beaucoup des problèmes qui se posent au niveau des frontières.
Avant la poursuite de sa mission à Bukavu, site Kivu, Jean-Lucien Boussa a rencontré différents acteurs relevant de son secteur, mais rien n'a filtré de ces échanges. Il a tout de même affirmé que le rapport de sa mission devrait être présenté au Conseil des ministres. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, l'ASBL dynamique Salomon Kalonda Ndela poursuit avec sa série d'assistance aux formations sanitaires à Kindu. À part les 36 malades dont les factures ont été payées le week-end dernier, 5 centres de santé ont reçu une assistance en matelas de la part de l'initiateur de cette association, Salomon Idi Kalonda. À Kindu, une correspondance de Florence Kiza.
Les centres de santé Basoko, Kasukude, Tokolote, Mikelenge et Lombolombo sont là les structures qui ont bénéficié de ces dons. Chaque centre a reçu du matelas. Les bénéficiaires ont exprimé d'autres besoins aux donateurs.
En tout cas, il n'y avait pas de matelas. Tout ce qui était comme matelas là-bas, c'était déjà en lambeaux. Comme on vient de nous amener ça, vraiment, ça va aussi faciliter les femmes de bien dormir et de fréquenter notre structure.
On manquait comment on va observer nos malades et les accoucher. Maintenant, vous nous dotez les matelas. Nos remerciements s'adressent justement à M. Salomon Escadel. À part les matelas, nous n'avons pas les médicaments, nous n'avons pas le matériel, l'obscurité et d'autres choses.
Les coordonnateurs provinciaux de Descadé exhortent ses bénéficiaires à une utilisation rationnelle de ces matelas. Très révérend Père Sandala.
Qu'ils soient reconnaissants et qu'ils fassent un bon usage de ce matériel. Parce qu'on sait que dans le temps, il y a des maternités, des maisons médicales qui ont été dotées de matériel, mais ces gens ont vendu. Alors nous devons faire un suivi très important. Il faut qu'ils emploient ça pour tout le monde. Ce n'est pas à vendre.
Signalons que Salomon Idi Kalonda a assisté au total 10 centres de santé. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, la libération des prisonniers s'est fait toujours attendre. Les prisonniers politiques seront libérés sous 3 jours, avait dit vendredi le général Al-Burhan. Au 3e jour de cette déclaration, il n'y a toujours eu aucune libération. Les promesses du général putschiste envers le pouvoir civil ont été nombreuses depuis le coup d'État du 25 octobre, mais leurs effets n'ont que rarement été observés. Le Tchad entame une semaine politique importante en transition depuis une année après la mort au combat d'Idriss Déby. Le pays s'apprête à vivre des jours déterminants pour la suite de la transition. Des décisions importantes pourraient être annoncées en marge des commémorations du premier anniversaire du décès de l'ancien chef de l'État.
L'invité.
Il faut mettre en place une politique structurelle qui doit intégrer la construction des infrastructures des bases, notamment les routes, pour booster la production agricole et relancer l'économie du pays. C'est ce que pense en tout cas Adolphe Mouzito, Premier ministre honoraire et président du parti politique Nouvel Élan, membre de la plateforme Lamouka. Adolphe Mouzito est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Paul Matendo.
Adolphe Mouzito, bonjour.
Bonjour.
La situation économique est caractérisée par une surchauffe des prix des produits de première nécessité, alors que les taux de change sont restés stables. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour juguler cette tendance inflationniste?
Oui, mais ça, c'est une approche court terme de la situation. Il faut une politique long terme, structurelle, qui concerne les routes, qui concerne l'agriculture, qui concerne des infrastructures de base, pour que le pays produise plus qu'il ne produit. Aujourd'hui, sur le plan agricole, notre offre est petite. Et maintenant, nous subissons les effets du choc exogène de la communauté internationale, du fait de la hausse des prix des produits pétroliers, la hausse des produits alimentaires dont nous dépendons parce que nous importons beaucoup.
Est-ce que cette instabilité doit s'expliquer uniquement par ces facteurs exogènes, c'est-à-dire la guerre russo-ukrainienne?
Oui, pas tout. Mais déjà, nous subissons les chocs plus sérieusement que les autres parce que nous sommes vulnérables, parce que nous ne produisons pas, parce que nous n'avons pas de routes, parce qu'on n'a pas un secteur agricole. Nous dépendons de peu de devises que nous collectons pour financer les importations. Or, les importations, les prix des produits et pétroliers, et agricole, ces prix ont augmenté à cause de la guerre, entre autres.
Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, destitué par l'Assemblée nationale, s'il était dans votre gouvernement, quelle serait votre réaction?
Oui, de toute façon, je ne sais pas exactement pourquoi on l'a destitué. Il semble qu'il a proposé une démarche qui n'a pas contenté les opérateurs économiques et que cette position consistait que lui-même devienne opérateur économique en important qu'il les cherche. Je crois que lui, il est autorité de régulation, il peut intervenir. Encore, je ne suis pas pour la régulation pour ce qui est du marché. Il devait maintenant contrôler a posteriori les conditions dans lesquelles ces opérateurs importent et vendent les prix. Mais au lieu de rester celui qui régule ou qui est neutre, il s'est substitué. Il a voulu faire cette démarche le seul et il a eu des problèmes. Il a eu aussi à augmenter les prix dans le secteur aérien. Il a eu des difficultés. Je crois que moi, par définition, je suis pas interventionniste dans les secteurs économiques, sauf pour certaines branches d'activité, notamment les infrastructures ou autres. Mais tout ce qui est marché, il faut que les marchés soient plus ou moins, si on veut y intervenir, c'est en encourageant la production. C'est l'offre qui doit permettre à la baisse, qui va permettre à la base des produits. Et ce n'est pas les contrôles administratifs qui permettra de réduire les prix à partir du moment où nous n'arrivons pas à produire davantage. C'est en produisant davantage que nous pourrions baisser les prix des produits, qu'ils soient alimentaires ou pétroliers.
Adolphe Mouzito, merci.
Merci beaucoup.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Noéla Luzitu Kabambi sous la supervision de Martin Sebujangwe et Jean-Noël Mokondo, la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.